Conférence privée par le père Philippe à Rimont le 26 décembre 1987, deuxième heure.
Oh, donc la grande vision de l'agneau. Lorsqu'il prit le livre, les quatre vivants et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau, ayant chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Très important de souligner les prières des saints. Cet homme a dit que les prières des saints font partie de la prédestination. Et que dans tout le climat de cette grande vision de la prédestination, si on a des tantes qui ont été carmélites, qui ont été de saintes religieuses, ça fait partie de la prédestination des saints. Et c'est l'avantage d'avoir des tantes religieuses et contemplatives, vous voyez. Parce que les oncles prient moins, tandis que les tantes, elles prient plus. Et ils chantent un cantique nouveau, disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été égorgé et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de langue et peuple et nation, et tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, ils régneront sur la terre. » Et c'est bien le mystère de la prédestination. Et ce qui est très beau, c'est qu'on est prédestiné à travers l'agneau égorgé, à travers le mystère du cœur blessé de Jésus. La prédestination se fait à travers le cœur du Christ. C'est le rôle de Jésus comme sauveur et comme médiateur. Et je vis, j'entendis la voix d'anges nombreux qui étaient autour du trône et des vieillards, et des vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. C'est une belle liturgie. Myriades, myriades, des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau, qui a été égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous voyez les sept dons. L'agneau, qui, sous la mouvance de l'esprit. Et toutes les créatures qui sont au ciel, et sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, et tous les êtres qui y sont, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, et la gloire et la domination pour les éternités d'éternité. Et les quatre vivants disaient, Amen. Et les vieillards tombèrent et se prosternèrent. On voit bien, c'est très très, c'est la liturgie céleste des anges, des vieillards, des quatre vivants, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alors l'association très forte entre les deux, dans ce grand mystère de prédestination. Alors là, nous allons maintenant, avec le chapitre 6, entrer dans le contenu mystérieux. Alors là, c'est très difficile à interpréter. Les interprétations sont multiples et diverses. Hein. Vous pouvez regarder, c'est normal. Hein. Quand vous interprétez un symbole, ne cherchez surtout pas d'avoir une unité. Le propre de la signification du symbole, c'est d'être multiple. Ce qu'on peut chercher, c'est un ordre. Et ça, c'est déjà très subtil. Parce que tout symbole a diverses significations, selon des niveaux différents. C'est la richesse du symbole. C'est pour ça qu'on parle de façon symbolique. Pourquoi on quitte la sacrée logique pour entrer dans le symbole divin? C'est justement pour quitter l'humain et entrer dans quelque chose de plus profond. La logique, c'est assez court, c'est univoque. Quand vous définissez l'homme animal raisonnable, c'est assez vite fait. Vous êtes au niveau horizontal de la mer. Vous voyez assez bien de temps en temps. Ça émerge, c'est raisonnable. C'est vrai, vous vivez avec un petit singe. Vous apercevez que c'est très rare que le singe est raisonnable. Il a des choses très drôles. L'instinct. Ses primes sautiers, c'est extraordinaire. Ça fait rire. C'est pas du tout raisonnable. C'est vrai, on regarde très bien un singe indéfiniment. C'est extraordinaire. Tandis que vous regardez beaucoup moins indéfiniment un homme. C'est beaucoup moins drôle. Au bout d'un certain temps, l'homme, il fait toujours la même chose, quoi. Tandis que le singe, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. C'est l'instinct. C'est pas le raisonnable. Animal raisonnable. Qui dit raisonnable veut dire justement qu'il y a des normes. Toujours. Ça, c'est la logique. Quand vous voulez comprendre ce que c'est que l'homme au point de vue symbolique, qu'est-ce que vous diriez? Point de vue symbolique. Vous diriez, je ne sais pas moi. C'est un vivant. C'est déjà mieux que l'animal. C'est un vivant. Il a trois vies en lui. Trois degrés de vie. Vous pourriez très bien dire. Un vivant triple. C'est pas quatre. Les quatre vivants, non. Il y a trois. C'est la différence avec Jésus. Trois. C'est un vivant de vie végétative, oui. C'est sûr. Il dort. Et quand il dort pas, il est de mauvaise humeur. Surtout pas le voir après être éveillé. Les animaux sont beaucoup plus raisonnable dessus. Quand ils ont bien dormi, ils baillent, et puis après, on peut y aller. L'homme ne baille pas tout de suite. Il baille après. Et végétatif, vie sensible, la vie sensible, passionnelle, puis de temps en temps, vie intellectuelle, vie spirituelle. Vous savez que l'homme, c'est un animal qui fait cet ensemble de choses. Puis c'est très curieux, il a une main. La main, c'est un symbole qu'il est capable de faire la soupe. C'est déjà quelque chose. C'est une activité typiquement humaine de faire la soupe. Et de faire les jours de fête des gâteaux. De l'extérieur, on ne sait pas pourquoi, il fait des gâteaux de temps en temps. Puis il y a la soupe quotidienne. C'est des choses comme ça, l'homme. Vous voyez, vous décrivez. Puis vous décrivez qui. Certains jours, il se met à danser. Puis, il y a des vêtements. Des tas de choses. C'est le langage symbolique, ça, de l'homme. Il se coupe les cheveux. Dans l'idée. Les animaux ne se coupent pas les cheveux. Vous n'avez jamais vu une lionne couper les cheveux au lion. C'est trop étonnant, ça. C'est très rationnel de se couper les cheveux, vous voyez. C'est extrêmement, une activité extrêmement rationnelle. Décrivez par les activités. Vous voyez comme les symboles sont riches. Parce que vous pouvez décrire chaque individu par une activité qui lui est typiquement propre. Il y a des gens qui sont au réfectoire, il y a des gens qui sont au cœur. Quelqu'un qui n'était jamais venu ici, à l'office, il m'a reconduit hier de Paris. Et j'étais très fabuleux, c'est comme c'est un peu un cinéaste, un peu. Je lui dis, quelle impression ça vous a fait? Parce qu'il est chrétien, il croit, mais à la manière d'un artiste, quoi, il regardait avant tout. Il dit, c'est très curieux, j'ai remarqué qu'ils ont surtout des tenues très intériorisées. Ou très penché. Alors je croyais d'abord que c'était un singe d'or. Je lui dis oui, il y avait de la paille. Et j'ai tombé à côté, parce qu'il n'y avait pas de paille ici. Et, parce qu'on pourrait être penché pour manger la paille. Ça. Alors non, ils sont penchés, très penchés. Très penchés, ils sont très, très. Alors je dis, qu'est-ce que c'est l'impression que ça vous fait? Oui, c'est très intérieur. Mais peut-être un peu trop. Ça dépend sur quel moment on regarde. Hein, si on... jamais trop intérieur. Vous n'avez pas vu Rester l'Office? Non, j'ai pas vu Rester l'Office, on est arrivé un peu en retard, j'ai pas vu l'Office au début. Parce qu'ils sont debout, c'est pas la même chose. Là, ils sont toujours un peu penchés. C'est l'impression. Pas du tout, pas de critique, une crainte. Qu'ils soient trop repliés sur eux-mêmes, voilà. Leur prière, c'est curieux, c'est intéressant, je vous dis ça, c'est parce que symbolique. Hein. La signification, il la donne lui, moi je donne une autre signification. On a discuté sur la signification du reste. L'impression de quelqu'un qui entre au cœur, qui voit ces jeunes moines, tous, alors c'est toujours la même interprétation. Oh, ce qu'ils sont jeunes! C'est toujours la même interprétation. Oui, c'est beau de voir qu'ils sont jeunes. Ah oui, ça fait du bien. Des jeunes qui prient ensemble et qui on a l'impression qu'ils aiment de prier, ça se sent. Ça sent qu'ils aiment de prier. Voyez, décrivez symboliquement l'homme. Activité rationnelle, prier, aimer. S'ils avaient été leur réfectoire, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit, ils auraient dit ils aiment de manger. Joyeux quand ils se mettent à manger. Une activité joyeuse. Alors le symbole, c'est multiple dans sa signification. Et c'est ça qui est la très grosse difficulté d'interpréter l'Apocalypse. C'est pour ça que je crois que le scolastique, qui est très rationnel et qui est tombé dans la logique et qui a quitté la métaphysique, a complètement abandonné l'Apocalypse. Les pères de l'Église, un peu, mais la scolastique, entièrement. Parce que je crois qu'il faut la métaphysique pour retrouver la signification du symbole. Je crois. C'est pour ça qu'on a besoin de respirer un peu à fond le point de vue intellectuel, spirituel, pour retrouver une signification symbolique très souple. Et non pas linéaire, logique. Et je vis. Lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux. Alors vous voyez bien les sept sceaux hein, qui ferment. Donc le sceau exprime que il y a un secret derrière. Les sept secrets de Dieu sur notre prédestination. C'est pas ça, c'est bien ça ce livre. C'est notamment un article particulier sur le livre de vie. Ce n'est pas grand-chose hein, en tant que théologien scientifique qui ne donne aucun sens symbolique, simplement le livre. De faire comprendre la mémoire de Dieu, Dieu n'a pas de mémoire, et donc c'est les choses inscrites de toute éternité. Et lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept sceaux, j'entendis l'un des quatre vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, donc sous le souffle de l'Esprit Saint, la voix de tonnerre, viens. Oui, mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. L'agneau, la rédemption. Et un des vieillis, un des quatre vivants, le mystère. C'est très curieux. Sous un aspect de l'incarnation, l'agneau dévoile. Hein, on précise pas. Et je vis, et voici un cheval blanc. Premier saut, vous le dévoilez, et vous voyez un cheval blanc. Faites ça avec un gosse, vous verrez les réactions. Sept sauts. Vous dévoilez un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Il lui fut donné une couronne. Il sortit en vainqueur et pour vaincre. Mais comme c'est mystérieux, c'est simple. Alors moi je crois qu'on ne peut pas interpréter en ne regardant qu'un des sceaux. Je crois que c'est impossible. Du reste, vous pouvez regarder la Bible de Jérusalem si vous l'avez sous les yeux. Vous verrez que l'interprétation que je donne n'est pas la même que celle de Jérusalem, ce qui ne vous étonnera pas beaucoup, n'est-ce pas, parce que c'est assez univoque. On interprète historiquement. Alors l'Apocalypse ne peut pas être interprétée historiquement. Qu'elle assume l'histoire de l'Église, oui, ce que je vous disais. Les premiers siècles de l'Église, jusqu'à maintenant, parce que c'était historique, l'Apocalypse serait vraie pour le moment où elle a été écrite. Et aujourd'hui, plus du tout. Ce sera un livre d'archéologie. Tandis que là, je crois que c'est tout le temps vrai et plus facile pour nous d'interpréter l'Apocalypse que pour saint Thomas. Parce que on en a vu davantage que saint Thomas. Avec tout le respect qu'on lui doit. On a vu davantage. On voit davantage aujourd'hui la lutte dans l'Église qu'au Moyen-Âge. D'abord, la connaissance du monde s'est agrandie. Et donc on voit mieux ce que c'est que la petite chrétienté. Alors qu'à ce moment-là, la chrétienté, c'était l'univers. Et lorsque l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant. Alors est-ce que c'est l'or, lion, jeune taureau, le deuxième vivant? Ça a posé la question, hein, à vous-même. J'entendis un deuxième vivant qui disait « Viens ». Et sortit un autre cheval, aux cheveux. Et à celui qui le montait, il lui fut donné d'ôter la paix de la terre, et de faire qu'on s'égorgeât les uns les autres. Il fut donné un grand glaive. C'est pas drôle, ces décisions de Dieu. Et lorsque l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant qui disait « Viens ». Et je vis, voici un cheval noir. Le cheval, hein, symbolise de l'animal noble. Le cheval, c'est toujours un animal noble, le cheval, dans l'Apocalypse. Et pour ce temps aussi. Un cheval noir. Et donc c'est surtout la couleur qui joue. Le symbolisme de la couleur. Et celui qui le montait avait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre vivants comme une voix qui disait un denier la mesure de blé et un denier les trois mesures d'orge et l'huile et le vin ne leur nuit pas. Et lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième vivant qui disait « Viens ». Et je vis, et voici un cheval verdâtre. Et celui qui le montait s'appelle la peste et l'Hadès. Et l'Hadès l'accompagnait. Aujourd'hui on dirait, celui qui le montait s'appelait la peste, Sida. Et l'Hadès l'accompagnait. Et il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée et par la famine et par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Et lorsque l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Et ici, l'agneau ouvre de lui-même, sans l'intervention des quatre vivants. C'est-à-dire, c'est normal, parce qu'ils sont quatre, donc il faut que ce soit les quatre premiers sceaux. C'est très curieux, hein, c'est les quatre premiers sceaux. Donc il y a un petit changement de vitesse là, un peu différent. Et il crie du reste, on voit bien, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu. Donc tous les martyrs. Il criait d'une voix forte, Étienne est là. Jusqu'à quand, maître saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre. Il leur fut donné à chacun une robe blanche. Il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fussent au complet et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui vont être tués tout comme eux. Et je vis, lorsque l'agneau ouvrit le sixième sceau, alors, Attention, toujours au sixième. Le sixième, c'est celui qui est avant le septième. Et donc, c'est particulièrement important, le sixième. Toujours, toujours. Il y a eu une grande secousse. Et les secousses apocalyptiques commencent. C'est la première. Et le soleil devient noir comme un sac de crin. Et la lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses fruits encore verts, quand il est secoué par un grand vent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toute montagne et île furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les capitaines, les riches, les puissants, et tout esclave et homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car il est venu le jour, le grand jour, de leur colère, qui peut tenir. Après cela, je vis debout aux quatre coins de la terre, quatre anges. Bon, alors là, il y a toujours, après le sixième, il y a toujours quelque chose qui fait que le septième ne vient pas tout de suite. On essaiera de comprendre. Et lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, chapitre 8, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc c'est toujours là où il faut s'arrêter. Il y a un grand silence. Alors on va essayer d'interpréter ça. Pas comme mode, voyez. Bon, il y a quelque chose de sûr. Parce qu'il faut une doctrine hein, sous-jacente. Que le livre que tient Dieu et les déterminations de ce livre, qui sont cachées à tous, sauf à l'agneau, ce qui prouve que tout, qu'il y a une alliance secrète entre l'agneau et le Père, que toutes les déterminations se font par le Père et par l'agneau. Et qu'on est bien en présence des déterminations de Dieu, donc ce qu'on appelle habituellement le mystère de la prédestination. Je crois que ça peut être à peu près sûr comme interprétation. Et que les sceaux nous dévoilent comme les grandes dimensions du mystère de la prédestination. Alors là, vous voyez tout de suite. Hein. En théologie scientifique, saint Thomas cherche la ratio, la raison de prédestination, comme il cherche la raison de prudence. Ici, on est dans un aspect descriptif. Et on nous montre les sept modalités de la prédestination. Je crois que ça, on peut le dire. Tout ce qui est contenu dans la ratio prédestination chrétienne. Et saint Thomas, en théologie scientifique, regarde uniquement la ratio prédestinationniste. Uniquement. Ici, on est en face d'une description. Et parce qu'on est en face d'une description, on est en face d'un exercice. Puisque l'exercice de la prédestination chrétienne. Autrement dit, tous les éléments, les conditions sine qua non, les éléments qui apparaissent dans cet exercice. Tout ce qui vient déterminer cet exercice. Quand Dieu prédestine un homme à être enfant de Dieu, qu'est-ce qui est impliqué dedans? Je crois que c'est ça qui doit nous aider. Vous voyez, je peux interpréter l'Apocalypse que si j'ai une théologie derrière. L'histoire ne suffit pas. De sorte que tous ceux qui ont interprété l'Apocalypse au point de vue historique se sont complètement trompés. L'histoire ne suffit pas, l'histoire ne nous donne pas le sens de ces diverses modalités de la prédestination. Il faut essayer de comprendre ces modalités. Alors, la première, on montre le cheval blanc. J'interprète l'Apocalypse par l'Apocalypse. Alors, voyez ce qui est dit au chapitre 19, sur ce passage extrêmement beau de l'Apocalypse. Chapitre 19, on voit bien, on est déjà au terme de l'Apocalypse. Chapitre 19, verset 11. « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. » C'est quand même curieux. Et je crois qu'ici, « cheval » devrait être avec une majuscule, et là avec une minuscule. Il peut y avoir un grand cheval et un petit cheval. Hein. C'est pas indiqué, mais c'est comme ça qu'on doit le comprendre. « Et voici un cheval blanc. » Et celui qui le montait s'appelait fidèle et véridique. Et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête de nombreux diadèmes. Il y a un nom écrit que personne ne sait, sinon lui. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang, et le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Ça me semble assez net, c'est Jésus dans sa grande victoire de la croix. Le cheval blanc, c'est du reste magnifique comme symbolisme. Le blanc, toujours, exprime la victoire. Nous nous sommes habitués de dire le blanc, c'est la pureté. C'est pas tout à fait juste. Au point de vue apocalyptique, c'est pas juste. Le blanc exprime toujours la victoire de l'amour. La victoire de l'amour implique la pureté, mais c'est une conséquence. C'est pas ça qui est premier. C'est la victoire de l'amour. C'est l'amour qui est victorieux. D'où le point de vue de la blancheur. C'est pour ça qu'il me semble que je ne peux pas interpréter ce cheval blanc sans tenir compte de ce qui est dit après à propos du cheval blanc. Ça me semble absolument impossible. C'est pour ça que moi, je crois que le premier, ce qui est du reste très normal, le premier ici, le premier sceau, a une place unique. Alpha et Oméga. Premier et septième, ça doit se ressembler, comme toujours. On est dans un ordre génétique et vertical. Il ne faut pas oublier ça. Le premier et le dernier se retrouvent, toujours. C'est pour ça que je ne fais pas du tout, parce que l'interprétation de certains, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième, quatrième, ah, quatre chevaux, représente la lutte dans laquelle on est. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre. La grâce. On est prédestiné par la grâce, à travers la grâce. La grâce, c'est le petit cheval blanc. Évidemment, dans le traité de la grâce, saint Thomas ne nous dit pas, article 1er, petit cheval blanc. La lumière du grand cheval blanc. Et je crois que c'est ça, c'est très beau, tu restes pour comprendre ce que c'est que la grâce. C'est le petit cheval blanc. Faites ça comprendre à un enfant. Mais audiovisuel, voilà comment ça devrait commencer. Un grand cheval, et puis un petit cheval, blanc. Éclatant de blancheur, le grand cheval. Le petit, moins éclatant, mais blanc quand même. Et le grand, il est très éclatant. Et le Verbe de Dieu, ça éclate. C'est magnifique. Et je vis, voici un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Alors c'est cet arc qui fait beaucoup de difficultés, parce que selon la note, évidemment, de l'Apocalypse telle que nous le donne la Bible de Jérusalem, il est compris que l'arc, c'est l'arme caractéristique des cavaliers parthes. Ici, seulement dans le Nouveau Testament. Ah, ils auraient dû faire attention. Car ici seulement, l'arc. Tout est commandé par l'arc. Or, nous avons vu qu'il y avait un arc dans le ciel. Hein? L'arc, il symbolise une quantité de choses. L'arc dans le ciel, c'est quoi? C'est la victoire. La paix. conséquence de la victoire. L'arc dans le ciel. Projection, chose extraordinaire. La guerre n'existe plus, il n'y a plus que la victoire qui s'inscrit dans le ciel. C'est une victoire lumineuse. Hein. C'est la lumière qui se décompose pour montrer la paix et l'ordre qui existent dans l'arc-en-ciel. C'est vrai que, point de vue symbolique, un arc-en-ciel, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est la lumière qui décompose. C'est pas étonnant, parce que c'est la victoire. Alors ça, on a complètement oublié, j'ai jamais vu. Et ça me semble pourtant très étonnant, si c'est mis une seule fois ici. Regardez dans les psaumes, parce que c'est intéressant d'interroger les psaumes. Vous voyez, chaque fois que l'arc apparaît, c'est évident que l'arc apparaît comme l'arme tout à fait primitive. Je crois que c'est la première arme, l'arc. Je crois. Le canon, il vient beaucoup après. Hein. Tandis que l'arc, c'est très primitif. Je crois que c'est les flèches, l'arc. Je crois que c'est la première arme, historiquement. Je ne vois pas si avant, oui, avant, on s'est jeté des pierres. Mais c'est pas encore une arme de jeter des pierres. Dick Clark, c'est une arme. Une arme de défense, avec des flèches empoisonnées. Alors qu'ici, au contraire, c'est des flèches qui ne sont pas empoisonnées. Alors, je crois que l'arme première et fondamentale, c'est celle-là qui désarme. C'est le fondement. Et l'arc-en-ciel exprimant cette victoire plénière où il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus que la paix. C'est pour ça que je crois qu'à la place des Parthes, c'est pas ça du tout. C'est l'alliance profonde du cheval blanc et du Père. Que fait Jésus à la croix? C'est la réconciliation. Nous sommes, nous, conséquences du péché, nous sommes dans la lutte. Que fait la grâce? La grâce nous lie à l'arc-en-ciel. La grâce nous lie divinement, et ceci par les mérites du Christ, et ceci par la victoire de la croix. J'interprète, je sais, j'interprète. Cherchez une autre interprétation, vous verrez que c'est pas commode. Un cheval blanc est celui qui le montait vers un arc. L'arc n'est pas nécessairement négatif. Du reste, faites attention dans les psaumes, vous voyez que l'arc n'est pas nécessairement négatif. Ce n'est pas nécessairement les ennemis. Il lui fut donné une couronne. Donc c'est la victoire. Il sortit en vainqueur et pour vaincre. Qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans? Mais rien, rien, rien. Au contraire, la seule chose positive, le cheval blanc. Pourquoi pas être conduit par le symbolisme de la blancheur? Si on est conduit par le symbolisme de la blancheur, on voit bien que c'est le fruit profond de la croix du Christ. On est prédestiné à être enfant de Dieu par le mystère de la croix du Christ et par le mystère de la grâce qui est fondamental et qui est premier. C'est pour ça que le premier, vous voyez, je crois que c'est lié vraiment au premier vivant, le lion. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Soit le lion qui donne la paix. C'est sûr, c'est un mystère de paix. Mystère de victoire, de paix. Voilà ce que je crois. Je sais que d'autres disent pas ça du tout, et qu'il y a des interprétations multiples, et que l'Apocalypse, du moins que la Bible de Jérusalem ne considère que ce n'est pas ça. Mais je pense que c'est ça, à cause du chapitre 19. Et lorsque l'agneau ouvrit le deuxième sceau, alors là, j'entre dans la lutte. Et le cheval, rouge feu. Rouge feu, c'est la colère. C'est la colère du dragon. Donc c'est l'emprise du dragon. Ah, c'est curieux. 2, 3, 4, on voit très bien que c'est la lutte. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait que nous sommes prédestinés et sauvés à travers les conséquences du péché originel? Notre grâce chrétienne est communiquer à nous dans la lutte. Et nous sommes liés. Dans le conditionnement, vous voyez, le traité de la grâce ne regardera pas que la grâce est reçue dans une âme qui n'est pas entièrement raccommodée. Il y a des pièces et des morceaux, hein. Et c'est vrai, dans notre psychologie, nous avons des tas de crevasses. Alors il y a les trois. Les conséquences du péché originel, c'est très joannique, hein. Saint Jean insiste beaucoup. Saint Jean, c'est celui qui révèle le mystère des conséquences du péché originel. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2. C'est là le lieu le plus explicite. Et ici, alors je crois qu'ici, nous sommes en face des conséquences du péché originel. Nous sommes prédestinés à travers la lutte. Nous sommes vainqueurs, mais nous sommes des vainqueurs qui devons rester cachés. C'est pour ça qu'il dit, c'est le cheval qui n'est pas encore totalement victorieux. Alors, conséquence du péché originel, le cheval rouge feu, et celui qui le montait, il lui fut donné d'ôter la paix de la terre. Ça, c'est bien la conséquence du péché originel. Alors, ce sont des permissions de Dieu et des volontés de Dieu. Il y a en nous, au plus intime de nous, il y a la lutte. Et de faire qu'on s'égorge les uns les autres, à l'intérieur de la même famille. Il fait donner un grand glaive. Ah oui, c'est plus l'arc, c'est le glaive. Je sais bien quel glaive de la parole. Oui, là aussi, hein, c'est le symbolisme est divers, et deux extrêmes. Il y a le glaive de la lutte. Ici, c'est le glaive de la lutte, puisqu'on a enlevé la paix. Le paix de la terre. Alors que l'arc-en-ciel donne le point de vue de la paix. Mais cette paix est dans le ciel. Il y a un lien entre la terre et le ciel. Par la grâce, je suis déjà dans le ciel. Et c'est pour ça que l'arc est présent, et c'est pour ça que le cheval blanc est présent. Mais je suis dans le ciel, dans la lutte. Alors c'est le cheval rouge-feu qui exprime cette colère. Il faut voir laquelle des concupiscences. Regardons les trois. Le cheval noir. C'est pas drôle non plus. Et celui qui le montait avait une balance dans la main. Symbolise de la balance dans la main. Et j'entendis au milieu des quatre vivants comme une voix qui disait un denier. La mesure de blé, c'est la famine. La famine, conséquence du péché originel. Tu travailleras sur ton front et quelquefois tu ne récolteras rien. Il manquera de l'eau. Il n'y aura pas la pluie. La famine. C'est bien la famine. Mais une famine, mesurée, l'huile et le vin ne leur nuit pas. Il y a une protection sur le vin et sur l'huile. C'est ça qu'on peut user de l'huile pour les sacrements. On peut en user même beaucoup. On a tous vu à Montmorin la manière dont notre évêque voulait montrer que lui, le symbolisme des sacrements, ça existait. Alors, et de l'huile. Et qu'on comprenne qu'on a les mains baignées d'huile. Et pas seulement un petit rien du tout, et puis après, symboliquement, on prend le coton pour essuyer. L'huile et le vin, il y en aura toujours. Et le pain, ça va de soi. S'il y a du vin, il y aura du pain. Parce que ce sont les aliments qui vont servir au sacrement. L'huile et le pain. Autrement, c'est la famine, le cheval noir. Donc, il y a ôter la paix, la lutte, le primat de la dialectique. C'est le primat de la dialectique. C'est ensuite la famine, travail, l'homme pourra travailler, mais il ne produira pas toujours le nécessaire. Le troisième, le cheval verdâtre. C'est l'Hadès, la mort. Tous les peintres du 15e, 16e siècle, quand ils amenaient le produit de la mort, la faucille qui emporte tout, il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée. Alors, vous voyez, c'est là, c'est le résumé. Pour tuer par l'épée, le glaive, par la famine, par la peste. Et alors, le dernier, il le rattrape par rapport à l'arc. Ceux qui veulent dire que l'arc, c'est l'épée, c'est analogue aux autres. Il parle des bêtes sauvages de la terre. Mais les bêtes sauvages de la terre n'ont rien à voir avec l'arc. Les bêtes sauvages de la terre, c'est tout simplement montrer que, de fait, l'homme, devant mourir, les bêtes sauvages de la terre vont l'emporter. Je crois qu'on peut comprendre cette triple intention, cette interprétation des trois. Alors, c'est pas commode de voir, vous voyez, c'est là que c'est très intéressant. On voit très bien que si vous interprétez d'une façon un tout petit peu matérielle avec les trois concupiscences, ça ne colle pas tout à fait. Les trois concupiscences, hein, pour ceux qui oublient. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de la vie. Ça s'est révélé. Il y a en nous trois concupiscences. Concupiscence de la chair. Nous sommes des êtres charnels voués à la mort. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un lien spécial. Notre corps. La peste, le sida. Concupiscence des yeux, l'ambition, l'ambition, et concupiscence de la vie, l'orgueil. Vous voyez bien, on a ôté la paix. Qu'est-ce qui est à l'origine des rivalités, des oppositions, de la dialectique? L'orgueil. On enlève la paix. Et la famine, c'est le point de vue, justement, de la vanité, les apparences. Les gens vivent des apparences, d'où la famine. Vous voulez une récolte superbe, hein ? Vous occupez absolument pas de savoir le lendemain. Vous occupez pas de savoir si vous coopérez ou si vous exploitez. La grosse vanité. On vit dans la grosse vanité. Des apparences, sans voir s'il y a quelque chose. Concupiscence des yeux. Les gens ne font attention qu'à ça. Et l'orgueil. Alors ça se tient, je suis tout à fait d'accord que les trois, mais vous voyez, l'orgueil, c'est la première. La vanité et la chair. Et vous avez bien les symbolismes des trois. Je crois que l'orgueil suscite, justement, cheval, rouge, feu. Par l'orgueil, vous voulez dominer. Vous êtes lié par le fait même au dragon. Par la vanité, cheval noir. Parce que tout est corrompu en dessous, par derrière. Mais, très belle façade. Et l'orgueil verdâtre. Le fruit peut être très beau, mais il est larvé. Il y a un ver, l'orgueil. Alors c'est la peste et l'Hadès. Nous avons en nous ces trois concupiscences. Hein. De temps en temps, regardez, quand vous vous confessez, mon père, je m'accuse de petit cheval, verdâtre l'emporté. Mon père, je m'accuse, de petit cheval, aux cheveux. L'a remporté. Le petit cheval noir Elle était là. Je lui ai donné de la famille, je lui ai donné un tout petit peu de nourriture. Nous avons en nous ça. Même les jours de Noël, c'est pour ça que c'est normal qu'il y ait du foin. Les petits chevaux qui habitent en nous. Ça c'est sûr, vous pas nier. Oui, c'est la guerre intestine. C'est la guerre intestine. Il y a en nous ça, porte tout ça. Alors on le voit très très bien chez le voisin. Très très bien. Prochaine proclamation de chapitre. Mon père, j'accuse le frère. Le cheval verdâtre, elle a vraiment trop emporté. C'est vrai, on voit tout ça en soi. Ça fait partie, voyez, du regard de Dieu sur nous. Le livre de prédestination. Le regard de Dieu sur nous. C'est pas une grâce. Mais ça fait partie du conditionnement de la prédestination. Le conditionnement, c'est pas la détermination, c'est le conditionnement. La détermination, elle est donnée tout de suite au point de départ. L'intention. Pour Dieu, l'intention rejoint l'exécution. L'alpha rejoint l'oméga. Mais s'il n'y a pas d'intention au point de départ, c'est pour ça que quand on dit que c'est le part, on n'y comprend plus rien du tout. Comme si Dieu permettait tout de suite qu'on soit en dessous de ce qu'on doit atteindre. Mais non. Dieu nous prédestine dans la lumière du Christ. Dans la lumière de l'agneau égorgé. Et donc il y a en nous tout de suite la grâce du cheval blanc. Une fois que vous avez compris ça, ça va très bien pour le reste. Hein. C'est facile. C'est la guerre intestine que vous portez en vous. Tandis que cinquième saut, c'est comme ceux qui s'arrêtent à la justice. Vous savez, un peu les pharisiens de tous les temps, un peu les intégristes de tous les temps, ils s'arrêtent à la justice. Donc ça va très bien. Ils ne comprennent pas que Dieu ne fasse pas tout de suite la justice. Ils voudraient remplacer la justice de Dieu. Jusqu'à quand, maître saint et véridique, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang en le redemandant à ceux qui habitent sur la terre? Ceux qui habitent sur la terre, voyez bien. Ceux qui habitent sur la terre, c'est tous les voleurs, ceux qui vivent mal, hein, qui mettent leur finalité dans. Et alors c'est la lutte. On est victorieux. Dans un bon intégrisme, dans un bon pharisaïsme, on est victorieux de ça. On trouve que c'est suffisant. Le mot doit se terminer à nous. Cinq. On a un regard inflexible de justice. Ah, on est fidèle, hein? On est fidèle. Très fidèle. Je crois que c'est très intéressant, c'est un déclic. Hein? Il faut dépasser la vertu de justice. Et la vertu de justice reste très souvent comme un sommet. Je crois que ça base tout pharisaïsme. On juge les autres en fonction de la justice. Alors on voudrait bien que ça s'arrête. Ils sont quand même très beaux. Hein. Je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu. Ils sont des bons intégristes. Ils sont fidèles. Ils ont accepté d'être égorgés pour la parole de Dieu. Leur petit défaut, c'est qu'ils considèrent que eux étant sauvés, c'est suffisant. Les autres sont voués au feu éternel. Et ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand? Ils imposent à Dieu leur vision. C'est ça le défaut. On a tous en nous un petit intégriste, vous savez. Même les progressistes. Ils sont les pires intégristes. Ils sont les intégristes de leur progressisme. C'est très curieux. Et tous ceux qui ne sont pas dans leur progressisme sont, par le fait même, voués à la faute. Il leur fut donné à chacun une robe blanche. Donc c'est beau. Ils ont déjà une petite victoire. Dieu leur donne la médaille. la Légion d'honneur. Il leur donnait à chacun une robe blanche. Il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps. Taisez-vous. Acceptez que ça dure encore. Jusqu'à ce que fussent au complet et leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui vont être tués comme eux. Ils doivent attendre la patience. Et ça, le dépassement de la justice, c'est la patience. Vous savez, ça correspond très bien à ce passage de l'Évangile quand on veut arracher tout de suite la mauvaise herbe du voisin. C'est comme ça. Ça existe dans tous les groupes, puis ça existe en tout, chacun individu. Mais dans le groupe, il y a toujours, toujours ceux qui sont les puristes. Faut que tout soit net, pur, justice, justice, ordre, ordre. L'ordre avec un grand O. Il n'y a que ça. C'est l'ordre qui est premier, la justice qui est première. Non, il y a un dépassement. On n'est pas prédestiné à la justice. On n'a pas prédestiné à être des justes. On est prédestiné à être des enfants de Dieu. Et notre grâce n'est pas une grâce de justice originelle. Et ça, je crois que c'est très important de voir qu'il y en a un cinquième moment, ce qui prouve que c'est très important. Et que c'est sans doute pour beaucoup une très grande difficulté de dépasser ça, pour entrer vraiment dans la vision de Dieu. Réfléchissez, si vous trouvez un autre ordre, vous le mettrez, vous me le donnerez, parce que nous cherchons ensemble. Le sixième, ça on le reverra, parce que c'est très important le sixième.